Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 5, proposé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire et puis à toutes les personnes qui vont écouter ce webinaire par la suite, qui sera transformé en podcast et disponible pour Spotify, donc pour le réécouter. Donc, je m'appelle Gérald Kenanian, donc je suis directeur de micro-innovation au sein du MEDEF et donc je travaille comme ingénieur au pôle numérique innovation. Je voulais juste faire un petit mot d'introduction pour dire que l'innovation est un enjeu majeur pour le MEDEF et en particulier évidemment pour les entreprises françaises. Là, je suis un facteur de compétitivité important et un enjeu de souveraineté. Je vous parle de l'IA, de quantique ou d'énergie comme l'hydrogène, vous comprenez les enjeux. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'État a mis en place de nombreuses initiatives pour favoriser l'innovation au sein des entreprises. Donc, on peut citer des comme le crédit d'impôt recherche ou à peu près 7 milliards d'euros par an. Et d'ailleurs, il y aura un webinaire qui sera organisé sur le crédit d'impôt recherche normalement en fin d'année. En plus des aides fiscales, il y a différents types d'aides comme des subventions, des prêts, du fonds d'investissement, notamment avec BPI France. Là, normalement, on aura aussi un webinaire qui sera consacré à ce type d'aide ce printemps. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un autre type de structure d'accompagnement qui est appelé SAT, donc les SATT, qui vise à faire passer des technologies des laboratoires de recherche publique comme le CNRS, le CEVA, etc., vers les entreprises. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, enfin d'être accompagné de Fabrice Lefebvre, qui est juste à côté de moi, donc qui est président de la SAT Nord. Laurent Auré, qui est à côté, qui est directeur des partenariats industriels. Et deux entreprises qui ont travaillé avec les SAT et qui vont nous parler un peu de leur fonctionnement avec les SAT. Donc on a Kushendan Rasia pour l'entreprise, pardon, et Joanne Fournil. Donc Fabrice, je laisse la main.
Merci beaucoup Gérald, merci au MEDEF de nous avoir invités pour parler effectivement du transfert de technologie avec les SAT. Je vais à mon tour effectivement parler des SAT. Alors, comme tu l'as dit effectivement, les SAT, SATT, ça veut dire accélération du transfert de technologie. Les SAT ont été créés il y a maintenant un peu plus de 10 ans, quelques années après la grande crise financière de 2008, pour justement être là, pour prendre les risques d'investir dans des technologies, des laboratoires publics à des stades très très avancés. En fait, véritablement, les SAT ont été créés pour essayer de rassembler, de fédérer des compétences qui étaient un petit peu éclatées dans différentes universités, et les rassembler ensemble pour qu'on puisse effectivement être un peu les primo-investisseurs de l'innovation, c'est-à-dire en fait véritablement de pouvoir prendre les risques à la place des entreprises, là où on a des inventions de laboratoire qui sont vraiment très 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 précoces, pour les amener après vers les entreprises, après les avoir fait grandir. On y reviendra tout à l'heure. On travaille avec qui? On travaille avec les universités de nos territoires, universités, mais aussi des, ce qu'on appelle des organismes nationaux, comme le CNRS, par exemple. Et on a pour mission, justement, d'être cette mission d'investissement et d'assurer le transfert de technologie vers les entreprises, avec notamment des actifs, des brevets, ou via la création de start-up. Et à côté de ça, on fait également des prestations de services connexes, notamment pour les entreprises. Donc, voilà ce qu'on sont les SAT. Maintenant, on va rentrer un tout petit peu dans le détail sur ce que sont les SAT sur le terrain. En fait, nous sommes 13 SAT en France. Donc, chacune a son territoire. Nous ne faisons pas concurrence entre nous. Nous travaillons au service, globalement, chacune, une dizaine d'universités, écoles d'ingénieurs ou le CNRS, pour justement faire émerger des laboratoires des différentes entités, des inventions que nous allons pouvoir faire grandir. Donc, qui représente peu ou prou 80% de la recherche publique française, 80% des chercheurs français. Ce travail de terrain, il est très très important. Pourquoi il est important? Parce qu'il faut qu'on soit à proximité, notamment des chercheurs, pour leur donner envie de valoriser, d'aller à l'écoute de leur ce qu'ils proposent, de ce qui vient de leur laboratoire, de leurs inventions, mais également on doit être sur le terrain pour être au contact des entreprises, pour essayer justement de pouvoir matcher, entre guillemets, une invention avec les besoins d'un industriel. Au-delà de ces 13 SAT, on travaille en réseau. En fait, on s'est dit, justement, soyons pas chacune sur notre territoire, essayons de voir comment ensemble on peut effectivement proposer des choses un peu consolidées auprès notamment des entreprises, trouver de l'efficacité globale et de pouvoir parler en un nom de l'ensemble des technologies des SAT. Et c'est pour ça qu'on a créé une équipe nationale constitue de 13 représentants des 13 stats avec donc une direction des partenaires industriels, incarnée aujourd'hui par Henri, avec moi, qui donnera la parole. L'objectif étant de servir les entreprises en disant, il y a une question, il y a une entreprise, on doit trouver la réponse. La réponse est au niveau local de la stat, elle peut être également au niveau national avec la direction des partenaires industriels. Ça, c'est vraiment notre contrat. En ce qui concerne les étapes, en fait, notre travail, il commence d'abord par la sensibilisation des chercheurs. Alors aujourd'hui, on va être un peu caricatural, c'est vrai que les chercheurs, il y en a beaucoup en France, leur façon de travailler, de fonctionner, d'avancer dans la carrière, il est surtout sur la production de connaissances, sur la publication de résultats. Notre travail, c'est de les sensibiliser en disant, on peut toujours produire des connaissances et faire des publications, tout en inventant, tout en protégeant des inventions qui vont pouvoir trouver leur place dans la société. Notre travail, c'est justement de montrer que tout ça est compatible et de vraiment donner envie aux chercheurs d'innover. Donc après, le travail, c'est un travail de proximité, comme je disais tout à l'heure, à mon avis, du chef de projet, qui sont au quotidien, on contacte les chercheurs pour faire cette partie détection d'invention dans tous les domaines, hein, puisque sont tous les chercheurs des territoires en question, donc ça peut être de la santé, l'intelligence artificielle, les matériaux, les objets connectés, etc., etc. Donc, la première étape, c'est de faire vraiment la détection. Et puis après, on va parler de maturation. Alors, le terme maturation, on a ce que l'agroalimentaire, on mature en disant, on met les feuilles de tabac. Et nous, la maturation, c'est la maturation des inventions. Voilà, on les fait grandir, on les fait évoluer pour arriver à un stade effectivement mature pour qu'elles intéressent une entreprise. Il y a plusieurs choses. Il y a la maturation économique. Cette invention que nous propose le chercheur, quels peuvent être les marchés d'application? Il peut en avoir un, il peut en avoir plusieurs. De quelle façon ça peut intéresser les entreprises? Donc, ça suppose beaucoup d'échanges avec les entreprises elles-mêmes. La maturation technologique, c'est de dire, je pars d'une invention, j'ai envie de dire un peu au stade de la paillasse. Comment je l'amène à un stade mature du prototype représentatif de conduite industrielle pour que l'industriel voit quelque chose de concret sur lequel il puisse avoir envie derrière d'aller plus loin et de l'industrialiser. La maturation juridique, c'est sous quelle forme on va après transférer la technologie auprès de l'entreprise, sous quelle forme de contrat, et la propriété intellectuelle. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour qu'une invention ait de la valeur auprès d'une entreprise, il faut qu'elle soit protégée. Il faut que l'entreprise ait les garanties qu'elle va pouvoir s'appuyer sur les droits qui lui sont donnés pour pouvoir l'industrialiser et commercialiser, j'allais dire, en toute sécurité. Donc, notre travail, ça va être d'essayer de voir comment on peut protéger au mieux l'invention. Ça peut être, et c'est très souvent le cas, des brevets qui sont déposés. Il peut y avoir un brevet, il peut y avoir plusieurs, on peut avoir des familles de brevets qu'on peut déposer. Il peut y avoir également du logiciel, ça peut être aussi un savoir-faire secret, qui n'est pas déposable pour un brevet, mais conservé et gardé jalousement secret pour le transfert auprès de l'entreprise. L'idée, c'est de trouver vraiment la bonne stratégie de protection de l'invention pour qu'elle ait la plus robuste possible et la plus, entre guillemets, qu'elle protège au mieux les intérêts industriels. Et puis derrière, la phase qui suit, ça va être la phase commercialisation. C'est-à-dire qu'on va transférer effectivement les droits exclusifs d'exploitation de l'actif, donc du brevet et autres, auprès de l'entreprise pour qu'elle ait derrière le maximum d'impact économique, mais également, on en parle de plus en plus, d'impact sociétal, création d'emploi, hein, lié à la pensée de la technologie, et puis impact environnemental également pour certaines technologies. Alors, on est là pour être justement cet intermédiaire actif et de parler les deux langages, le langage du chercheur, pardon, je suis un peu caricatural, le langage de l'entreprise, ça doit être capable de pouvoir être vraiment cet intermédiaire de confiance entre l'entreprise et le laboratoire. Donc, le laboratoire, en fait, on est en relation avec lui, il donne à voir les résultats scientifiques liés à l'invention. Justement là, on fait tout le travail de maturation dont je parlais tout à l'heure. Et une fois qu'on a pu développer la technologie, on se met en relation, on recherche une entreprise, qui va être, on aura des exemples tout à l'heure, avec qui on va signer un contrat de licence. Donc le contrat de licence vise à conférer à l'entreprise les droits exclusifs d'exploitation du brevet ou de l'entreprise dont j'ai parlé tout à l'heure. Le travail d'entreprise derrière sur la technologie, elle va continuer, le développement, elle va assurer l'industrialisation, la commercialisation, pour en faire derrière un produit ou un service qu'elle va délivrer auprès de ses clients. En retour, les clients vont permettre donc à l'entreprise de générer du chiffre d'affaires. L'entreprise va revenir vers la SatNor avec des redevances liées au contrat de licence qui aura pu être octroyé. Et il y a un retour auprès du cashback, auprès du chercheur, des inventeurs, il peut en avoir plusieurs, ou des établissements pour, entre guillemets, les encourager à continuer à valoriser leur recherche. Donc, quelque chose d'important, c'est cette boucle matérielle et puis de chiffre d'affaires qui se fait dans les deux sens. Notre modèle économique, c'est de couvrir notre investissement et d'en reverser une partie, effectivement, aux établissements. Alors, pour faire tout ça, on développe, donc on investit dans des projets. À l'échelle des SAT, c'est environ 2800 projets en tout, avec un investissement moyen de 200 000 euros. C'est-à-dire que cet investissement nous permet de faire grandir l'invention jusqu'à ce stade de prototype, avec des emplois, on recrute des ingénieurs maturation, dans des moyens techniques et autres, pour effectivement arriver à ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans tous les domaines. Et en général, une période de maturation chez nous, ça en général 2 ans. Et parfois, et c'est pour ça qu'on parle aussi de co-maturation, c'est-à-dire qu'on engage une entreprise à nos côtés pour faire ensemble le bout de chemin qui permet d'arriver à l'invention jusqu'au transfert, qui permet à l'entreprise de pouvoir voir de quelle façon la technologie va se développer et va arriver à un certain stade. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce stade-là, elle projette déjà l'industrialisation de la technologie.
Donc l'argent va dans le laboratoire,
absolument.
Va payer du personnel pour faire avancer la technologie. Par contre, c'est pas de l'argent qui va être directement à une entreprise.
C'est de l'argent qui est investi par la SAT pour faire grandir la technologie. Et donc ça va dans le laboratoire, ça sert à recruter des personnes que j'ai dit tout à l'heure. Ça sert aussi à protéger les actifs, à faire les frais des dépôts de brevets. Cet argent, il est investi effectivement et parfois auprès de prestataires.
Donc quand il y a une co-maturation avec une entreprise, la propriété intellectuelle, elle est divisée, elle est à la SAT.
La propriété intellectuelle appartient toujours aux établissements. C'est-à-dire que nous sommes des intermédiaires, mais les brevets appartiennent aux établissements, ce qu'on appelle les copropriétaires, avec les inventeurs derrière. Par contre, l'entreprise, elle pose derrière de l'exclusivité de l'exploitation, quand on parle de licence, de l'exclusivité d'exploitation du brevet dans son domaine d'application. Alors, parfois, c'est tout domaine d'application, parfois, c'est un certain domaine. On lui donne la possibilité d'exploiter ça de façon, j'allais dire, complètement sécurisée. Alors, pour ça, il y a 700 personnes, hein, c'est les 700 personnes, un projet, c'est un business developer, un chef de projet, un ingénieur propriété intellectuelle et un jury. Il y a 70 business developers dans toutes les stats. Et on travaille dans les deux sens aussi. On travaille beaucoup dans ce qu'on appelle un peu vulgairement le techno-push, c'est-à-dire qu'on prend une invention, on la pousse vers le marché, mais également, de plus en plus, on fait également du market pull. Et on y viendra tout à l'heure avec les messages de Laurent. C'est-à-dire qu'en fait, aller chercher, aller au devant des besoins des entreprises et pouvoir regarder dans l'ensemble des stats pourrait permettre de répondre à ses besoins, soit pour un transfert direct, soit pour faire du co-développement commun. L'objectif, évidemment, pour nous, c'est de contribuer à ce que l'entreprise développe sa compétitivité, la concurrence française et internationale, et de pouvoir, évidemment, accroître ses flux financiers d'entreprise et, bien sûr, de contribuer à la souveraineté technologique aussi, en fait, au niveau national. Quelques chiffres pour illustrer un peu notre activité. Donc, je vous ai dit, on existe globalement depuis 2012, donc c'est un peu plus d'une dizaine d'années de bilan. Globalement, un peu moins de 20 000 détections d'inventions réalisées dans l'ensemble des laboratoires, plus de 4 000 brevets déposés pour protéger ces inventions, un peu moins de 2 000 transferts de technologies qui ont pu réaliser auprès d'entreprises, dont on voit que 837 ont été via la création de startups. Alors, un mot là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on a deux globalement stratégies de valorisation. Et soit on transfère vers une entreprise qui existe, PME, TI, grand groupe. Soit, quand on ne trouve pas d'entreprise qui est intéressée par la techno, mais nous, on y croit, on pense qu'elle a une vraie valeur sur le marché, qui se développera après, eh bien, les stats créent des startups pour pouvoir effectivement porter cette technologie, la développer, bénéficier après de la suite, du financement, pour pouvoir après grandir, devenir peut-être un jour certaines d'entre elles des belles licornes, ou dans certains cas, elles sont rachetées par des sociétés, effectivement, ça va permettre à Brian de se développer un peu davantage.
J'ai une question pour Paul, parce que j'ai eu plusieurs fois la question. Là, vous pouvez prendre éventuellement des parts au capital de la start-up que vous créez, ou par contre, vous ne prenez pas de part ou vous n'investissez pas dans les entreprises externes, une start-up qui cherche à lever des fonds. Là, par contre, vous n'avez pas de...
On n'a pas ce rôle de fonds d'investissement, effectivement, dans des start-up externes, des start-up dans lesquelles nous faisons de la prise de part au capital par conversion de créances. Ce sont des startups qui sont nées, entre guillemets, du transfert de ta technologie. C'est uniquement celle-ci, et ce n'est qu'une partie d'entre elles. Ce n'est pas la totalité, c'est une petite partie d'entre elles, celle pour laquelle on pense que ça peut vraiment l'aider. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça devient? Où sont les entreprises, effectivement, vers lesquelles on transfère? Donc, sur ces un peu moins de 2000 licences de transfert de technologie, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, j'ai vu les chiffres tout à l'heure, 45% startups, et après, on se rend compte, c'est les PME-ETI sont très majoritairement, vous voyez, par rapport au grand groupe, les entreprises destinataires des technologies que nous transférons. Et la deuxième, bonne nouvelle, c'est que 60% de ces transferts se font dans une entreprise du territoire de la SAT, dans leur région, dans leur périmètre géographique. 30% en France, donc en dehors du domaine de la SAT. Donc, ça fait quand même 90% des technologies qui sont quand même transférées, effectivement, dans des entreprises françaises ou basées en France. C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans des acteurs, et c'est pour ça que je parlais de travail de proximité, parce qu'il est très très important, le travail d'échange avec les entreprises du territoire, au sens pas très généralitaire, au sens national. Je vais passer la parole à Laurent, pour parler justement spécifiquement des PME et des ETI.
Merci Fabrice, pour enchaîner de manière très, très, très concrète, après ce que tu viens de décrire, on peut légitimement se demander, mais comment on fait, comment ça se passe? Mais on essaie d'avoir une approche qui consiste à répondre aux freins que rencontrent les entreprises. Alors, ce que l'on a identifié, c'est notre aussi vision des choses, c'est que les freins souvent entendus de la part des PME principalement qui souhaitent innover se retrouvent confrontés à plusieurs problématiques, dont le nombre d'interlocuteurs, quel est le meilleur guichet, quel est le meilleur guide, le nombre d'intervenants financiers, comment je fais, le haut de bilan, bas de bilan. Trop de technologies, rien n'est rassemblé, rien n'est harmonisé. Comment je fais? Il y a trop de trop. Voilà. Il y a trop de trop qui amène énormément de freins. Alors notre approche qui s'est constituée au fur et à mesure des années, selon une approche terrain, est simplement résumée avec deux éléments qui sont importants à mes yeux pour la planification et l'agilité. Planifier lors de l'échange avec une entreprise dans la compréhension de ses besoins permet de baliser un peu le terrain à plusieurs semestres, voire plusieurs années. Ça, je crois que c'est important. Ceux qui font de la voile seront d'accord avec moi. Si on n'a pas un plan de route que l'on ne suivra au final jamais, on n'a quand même pas de, il nous faut des guides, il nous faut des lumières devant nous. Donc, on se projette, on fait cet effort-là avec les entreprises. Bon, je me tourne sur ma gauche, je vais représenter sur ma gauche là, avec Nistan et le groupe M2I. Se projeter à plusieurs années, ça c'est important parce que on vit mieux les écueils ou les difficultés à venir. Et puis l'agilité, c'est classique et c'est normal, c'est la vie des projets, c'est la vie des laboratoires, la vie des stats, la vie des entreprises. Il peut se passer plein de choses et il se passe plein de choses. L'approche que l'on a mise en place, elle est au final, elle revient à quelque chose de très simple. Une entreprise française doit avoir un interlocuteur unique. L'entreprise française doit avoir accès à un vivier de technologie. Ça, c'est l'effet réseau que Fabrice a évoqué tout à l'heure. Et dans les SAT, il y a un renfort à plusieurs niveaux, dont principalement, et je vais réinsister là-dessus, le support propriété intellectuelle, qui est un domaine extrêmement compliqué, et le support technique et financier que peuvent apporter les SAT au service des entreprises. Donc, on a un objectif commun, les SAT, les entreprises, de mettre sur le marché une innovation. Donc, autrement dit, quelque chose d'intéressant dort dans le laboratoire sur lequel le chercheur a passé une partie de sa vie. Il souhaite voir un écho industriel, commercial, création d'activités, création d'emplois, localisation d'industrie. On est là pour aider à cela et c'est notre objectif commun avec les entreprises. Et je crois qu'à ce niveau-là, on parle le même langage. Encore plus concrètement, je crois qu'on a préparé des éléments encore plus concrets. Nous avons essayé de faire l'exercice de se dire concrètement une entreprise qui souhaite innover, typiquement une PME, quand on la rencontre, on écoute. La nature nous a doté de deux oreilles et d'une bouche, c'est pour s'en servir en proportion. Donc on écoute, on essaye de comprendre ce que vous voulez faire, dont vous avez besoin. Dans l'écoute et la compréhension du besoin, ça c'est quelque chose de évidemment fondamental. Et on a fait l'exercice de retracer trois situations assez classiques que l'on rencontre. D'abord, on rencontre des entreprises avec un besoin très très précis. Et alors très très précis. Et là, ça amène chez nous une organisation qui consiste à vous amener au niveau local ou national avec un interlocuteur unique. Ça peut être une entreprise souhaite travailler. L'entreprise de France souhaite travailler avec la SAT Nord, elle aura un interlocuteur unique à la SAT Nord. Une autre entreprise qui n'a pas de référence ou d'attachement local pourrait demander à l'équipe nationale. Mais dans tous les cas, un interlocuteur unique, c'est essentiel. Et celui-ci prendra en compte la demande de l'entreprise pour apporter une réponse dans le mois. La réponse dans le mois, c'est typiquement très binaire, nous avons en stock quelque chose qui correspond aux besoins ou nous n'avons pas en stock quelque chose à l'instant. Néanmoins, ça, cette approche est importante parce que ça nous permet, au niveau des SAT, de vous référencer dans ce que vous nous dites ou ce que vous souhaitez nous déclarer ou nous demander. On est là pour vous servir, pas pour user de mauvaise manière les informations ou les besoins que vous exprimerez. Donc ça, c'est assez simple, je dirais, pour nous, le besoin précis, très précis, c'est pas souvent le cas. Souvent, les entreprises sont confrontées à quelque chose, une envie, un opportunisme à court, moyen terme. Elles ont leur activité, elles souhaitent se développer sur d'autres schémas, souhaitent savoir si elles peuvent aller piocher dans le vivier de la recherche publique française et souhaitent donc s'informer. Dans certains cas, certaines entreprises nous ont commandé des prestations qui consistent à faire une espèce de ce qu'on appelle chez nous un scouting, c'est-à-dire une prestation de service qui consiste à faire le recensement exhaustif national de tout ce qui existe comme objet d'innovation répondant aux besoins de l'entreprise. Alors, quand je dis objet d'innovation, il n'y a pas seulement les technologies, il peut y avoir des compétences laboratoires, il peut y avoir des start-up, tout ce qui est disponible. On fait cette étude en 2-3 mois, dans un ordre de prix, je vous ai indiqué là, qui va de 10 000 euros pour les PME à 20 000 euros pour des grands groupes. C'est une opération qui engage des moyens du monde de chez nous. Donc, elle est facturée. Pourquoi cette différence de prix de simple au double? Le 10 000 euros correspond à une offre de prix correspondant aux PME. Et avec le partenariat que nous avons avec la BPI, sous réserve d'éligibilité, cette prestation de scouting auprès des PME, sous réserve et conditions d'éligibilité, des conditions de la BPI que vous connaissez tous, peut être financée à 50% par la BPI. Donc ça, c'est utile de se retrouver à un moment donné quand on veut vraiment étudier, dans les 3 mois, une entreprise veut étudier ce qui est disponible aujourd'hui pour se projeter, développer un nouveau marché, vous aurez compris, peut se payer ce recueil très customisé, très propre à l'entreprise, qui permet de faire, en général, ce sont des documents de 30, 40 pages qui consistent à avoir 30, 40, 50 objets d'innovation avec l'identification des contacts, des laboratoires, etc. Si vous n'êtes pas prêt à payer, ben, nous, on ne peut pas le faire de manière comme ça aussi intense, et donc on va le faire au fil de l'eau. C'est-à-dire que là, il y a un temps qui est différent par rapport au premier cas que j'évoquais. On est plus dans une logique court terme, moyen terme, mais on vous connaît. Donc, dans les 6 mois en général, il peut sortir des opérations. Et ça, c'est intéressant. Le dernier cas, moins précis, pas pressé, une logique, on va dire, de veille active. Vous êtes bien installé sur votre activité. Vous vous dites, mon équipe R&D pourrait développer d'autres opportunités, pourrait se renforcer, pour alimenter l'open innovation de certains groupes ou entreprises. Cette espèce de veille active, et c'est très récent. On l'a mis en place cette année suite à 2 expériences réussies sur des événements que l'on avait montés, Deep Tech Meetings. On a mis en place cette année une plateforme qui s'appelle Tech 365 qui vous permet d'avoir 24 heures sur 24 accès à 400 technologies. Ça montera peut-être à 500, on sera dans ce volume-là. Ce qui est important de retenir, c'est 2 choses, c'est que c'est à votre rythme. Vous y allez quand vous le souhaitez. Ce sont des teasers pour présenter les technologies, les opportunités disponibles. Et c'est un catalogue vivant. Ce sera un catalogue en ligne, donc vous y accédez quand vous voulez, et vivant parce qu'il sera réactualisé. Donc voici parfaitement une illustration de ce que vous pouvez découvrir sur la plateforme Tech 365 qui a été lancée le 14 février cette année. Et donc, il recense à ce jour 382, je crois, technologies disponibles. Très simple d'utilisation. En haut à gauche, vous cliquez sur catalogue, et en haut à droite, vous cliquez sur derniers inscrits, et vous avez à l'écran toutes les dernières technologies qui sont rendues disponibles, donc qui émanent des stats, qui ont en général un actif pays, c'est-à-dire un niveau de protection, souvent en cours de maturation ou en fin de maturation, et qui sont disponibles, entre guillemets, au transfert de technologie.
Et si je trouve pas quelque chose sur cette plateforme-là, vous en avez d'autres quand même, potentiellement qui ne sont pas encore de suite, etc. Si c'est une entreprise, c'est pas que vous avez contacté.
Alors, il y a une autre fonctionnalité, merci Gérald, qui est très très importante à travers cette plateforme, c'est que si l'entreprise ne trouve pas son bonheur en faisant son marché à son rythme sur cette plateforme, il y a en effet une fonctionnalité qui consiste à faire appel à l'équipe nationale, à la direction des partenaires industriels, aux business dev locaux, peu importe. En tout cas, vous cliquez sur une fonction en disant « je ne le trouve pas, ce dont j'ai besoin, c'est assez pressé ». Et auquel cas, on prend le sujet en main, on vous recontacte et on va les trouver, en effet, pour reboucler avec ce que décrivait Fabrice, 2800 actifs pays, 400 sur la plateforme. Les 400 vont vivre. Il y en a quand même 2400 encore en stock. Donc, on a un agent humain qui va venir, qui va intervenir pour aider et accompagner l'entreprise. On le veut de manière simple. C'est un abonnement payant, 1000 euros à l'année. Quand vous cliquez, vous avez deux boutons. Quand vous repérez une techno, vous cliquez sur un bouton, voir les détails. Vous avez un titre, une illustration, une description longue des champs applicatifs. Deux contacts en haut à droite, le logo de la SAT en haut à droite également, des éléments de mots-clés pour faciliter les recherches après. Et vous pouvez déclencher un rendez-vous. Donc la plateforme intègre aussi des systèmes de visio intégrés, etc. Ou en dehors, il n'y a pas de problème. Donc ça facilite grandement la vie en ayant accès à un catalogue de technologies plutôt qu'à un annuaire d'organisation. C'est ça le pari que l'on prend. Et on a une annonce à faire.
Allez, bah, vas-y.
Je la ferme. Tu...
Allez, vas-y, dans le cadre du partenariat MEDEFSAT.
Dans le cadre du partenariat MEDEFSAT, avec le lancement de cette plateforme, nous offrons 50% de remise pour toute entreprise du MEDEF et en dehors du MEDEF.
On a ouvert le webinaire à tout le monde, mais
voilà.
A priori, c'est plutôt les adhérents qui vont être.
Plutôt les adhérents en premier lieu seront sans doute informés de cette offre. Pour une période de un mois devant nous, vous aurez accès à un tarif promotionnel de 50% pour vous montrer à quel point on croit à cette plateforme et pour vous montrer que ceux qui prendront un abonnement et qui trouveront leur pépite technologique auront beaucoup, beaucoup de travail et de collaboration et de partenariat à mener avec les SAT par derrière. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez bénéficier d'un abonnement à tarif réduit de 50% en utilisant le code d'inscription qui est encadré de rouge à l'écran, je vous le dis à l'oral, c'est MEDEF majuscule 24, tout accroché, tout attaché. Et les 5 partenaires autour de moi ont souhaité également aller un peu plus loin. Et M2I, Cliniscience, MEDEF, LASAT Nord, et le réseau SAT vont offrir également un golden ticket à 5 PME, c'est-à-dire 12 mois d'accès gratuit à la plateforme sur les 5 premières PME qui seront sélectionnées dans les prochains jours ou semaines, puisque je ne sais pas quel succès on aura par rapport à cette présentation aujourd'hui. Donc, voilà sur cette nouveauté actuelle. C'est le premier lancement officiel aussi que l'on fait après le communiqué de presse du 14 février. Donc, merci encore au partenariat avec le MEDEF sur ce sujet. Un travail de longue haleine qui a été mené.
Merci Laurent. Je vais, avant de laisser la parole à nos grands témoins, on va dire, de collaboration, montrer de quelques exemples rapidement, effectivement, de belles histoires réalisées et quelques exemples, on l'espère, les plus concrets possibles. Dans les MedTech, alors, à gauche, l'exemple de Decathlon. Donc, alors, on n'est pas au niveau du PME, DTI, mais comme on connaît tous Decathlon, pour montrer, en fait, le développement qui a été fait avec un chercheur un peu particulier. C'est un chercheur qui est au même temps pratiquement hospitalier. En plus, je me suis renseigné expert à la Fédération française de boxe. Donc, tout à fait conscient des risques sur les mâchoires et sur les dents des sports de combat et qui a donc contribué à ce développement, soutenu par la SAT Aquitaine, d'un protège-dents, protection intrabucale pour les sports collectifs et les sports individuels, et qui est d'ailleurs distribué dans les magasins de Decathlon. Donc, c'est quelque chose de tout à fait concret qui a fait l'objet de ce développement avec la SAT Aquitaine. Un autre exemple à droite qui est une covaturation d'ailleurs avec une entreprise qui s'appelle M. Delory, année maintenant, et on est là dans la technologie qui permet de faire une sorte de pilotage automatique de l'anesthésie en chirurgie. L'idée, c'est que l'anesthésiste n'est pas à surveiller à tout bout de champ effectivement ce qu'il doit injecter par rapport aux signaux renvoyés par la personne qui est en train d'être en intervention, mais simplement au travers d'une mesure, il y a une pompe qui vient ajuster exactement la bonne dose d'anesthésie dans les veines du patient. Ça lui permet d'être un peu comme un pilote d'avion en pilotage automatique et prendre la main quand c'est nécessaire. Et là, c'est en cours de développement pour être mis en œuvre, on va dire, à partir de la fin de l'année prochaine. D'autres exemples dans les NUMTECH. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs exemples qui sont donnés. Je prendrai à droite l'exemple du verre fluoré. On a sur la SAP Connectus qui est basée en Alsace, effectivement, une technologie transférée avec une PME bretonne. Le verre fluoré pour une technologie tout à fait particulière où on associe des micro-lentilles à des fibres. Et ça permet notamment de faire la détection de polluants en très très petites quantités. vraiment une technologie de pointe et portée par une PME qui est en développement. Et enfin, dans les green tech, plusieurs exemples également là à nouveau. On est à la fois dans les emballages alimentaires à base d'additifs naturels, à droite sur le stockage stockage d'énergie, et à gauche, en green tech, on est avec une solution qui permet de prévenir les risques de contamination par listeria dans les produits lactés, fromages, etc., etc. Donc, des exemples un peu divers pour montrer qu'effectivement, ça touche, comme on vient des inventions des chercheurs de différents laboratoires, et bien, on voit bien que les cibles sont vraiment très très larges entre l'alimentaire, vous l'avez vu, la médecine, etc.
D'ailleurs, sur cette technologie, ça fait très tech, vraiment des grosses technologies de laboratoire, etc. Est-ce qu'il peut y avoir des technologies ou des savoir-faire peut-être aussi un peu dans les années sociales, il peut y avoir des choses aussi un petit peu plus éloignées de ce qu'on peut voir du laboratoire.
Ça peut être, oui, j'ai un exemple en tête, alors qui n'a rien à voir, alors qui est vraiment SHS, en sciences humaines et sociales, c'est l'exemple dans lequel des chercheurs ont développé une reconstitution à l'identité d'un événement historique du XVIe siècle, lors duquel la cour du roi François Ier a rencontré la cour du roi Henri VIII, ça s'est passé du côté de Calais, et avec le faste compagnie des deux cours. Et donc, en fait, les chercheurs ont reconstitué les textures, les mets, etc., etc., là, on peut imaginer, pour effectivement donner à voir. Et ça a donné un transfert à une association du tourisme local. Pour donner un exemple, ouais. Effectivement, de choses très, très concrètes, très éloignées de la distance, mais qui répond aussi à des attentes également. Et là, on voit de quelle façon la science et la recherche peut permettre effectivement voir aller vers le public. Voilà quelques exemples. Et
avoir un peu un point de vue d'entreprise, si on travaille avec les TAT, et d'avoir un peu l'envers du décor, au moins l'autre côté, d'avoir un petit peu comment ça s'est passé avec vous.
Merci, bonjour à tous. Je vais essayer de mettre en évidence, en lumière, l'apport de la coopération du groupe M2I avec la TAT Aquitaine. Quelques mots auparavant sur ce qu'est M2I, ce que nous faisons. M2I est une entreprise qui a 10 ans maintenant, on a 200. Mais le partenariat qu'on va évoquer est intervenu dans les premières années de la création d'entreprise, un moment vraiment charnière pour notre activité. M2I est une société qui maîtrise une expertise dans la synthèse et la formulation de molécules complexes, comme la chimie et la chimie organique, et qui a mis à profit cette expertise de fermentation pure pour des solutions de green tech, que nous sommes devenus en quelques années le leader en Europe des insecticides biologiques à base de phéromones. Plein de mots compliqués. En gros, les insecticides biologiques faciles, c'est des solutions vertes pour se passer des pesticides telles qu'on les connaît. Et les phéromones, ce sont ces odeurs qui sont naturellement émises par les insectes qui leur permettent dans la nature de communiquer entre eux. Donc notre travail est un travail de chimie biomimétique qui consiste à reproduire en laboratoire ces molécules, ces odeurs émises par les insectes pour ensuite les appliquer dans des parcelles agricoles ou d'espaces verts et permettre aux jardiniers ou à l'agriculteur de se passer d'insecticides et de limiter la prolifération et les dégâts des insectes ravageurs. Notre travail consiste à identifier ces molécules, les synthétiser de la manière la plus économique et la plus pure possible, ensuite les formuler et les appliquer, définir des protocoles d'application. Ça, appliquer des odeurs. Fabriquer ces molécules, les formuler dans un jus et ensuite les appliquer dans les jus. Donc c'est là où notre activité a rencontré l'expertise de l'Institut des sciences moléculaires, donc il s'agit de mise en relation avec la SAD Aquitaine, avec l'Université de Bordeaux et le CNRS de Bordeaux, et de la CLIA et de Mathieu Pichot en particulier, un chercheur avec lequel on travaille étroitement depuis lors. L'activité qui a regroupé, qui a donné lieu au regroupement entre ce laboratoire et M2I, c'est un travail sur une amélioration d'une voie de synthèse molécule. Et celle de l'insecte qui ravage les vignes. Un sujet ô combien important en Aquitaine et dans le vignoble bordelais et girondin. Et donc, les vignes sont victimes d'un ravageur en particulier qui est un papillon, qui ressemble à un papillon de pluie, et dont les petits vers créent des dégâts dans les grappes qui peuvent entraîner destruction allant jusqu'aux deux tiers d'une récolte. C'est une phéromone qui était connue de la science agronomique. Était particulièrement compliqué à fabriquer cette odeur, et donc il y avait une vraie réflexion à mener sur la manière de fabriquer et de synthétiser cette molécule d'une manière plus efficiente, plus économique, plus rapide et plus facile à industrialiser. Si on veut que les phéromones soient une alternative à grande échelle aux insecticides, il est nécessaire de pouvoir fabriquer ces odeurs, ces molécules donc très complexes, avec des procédés industriels accessibles et simples. Et donc, c'est cette équation-là que la SAT Aquitaine et le laboratoire de Mathieu Pichot nous a permis de résoudre. Donc, c'est une opération qui a été extrêmement attirante, dans un premier temps parce que l'expertise de cet institut des sciences moléculaires était remarquable, parce que les savoirs étaient complémentaires entre notre équipe, certes très experte mais émergente, et des éprouvés, et puis surtout parce que le mode de coopération que nous avons pu trouver en dehors de la partie purement scientifique, le mode de fonctionnement et de coopération d'un point de vue économique, partage de propriété, partage des revenus attendus de cette invention, a été particulièrement opportun et particulièrement pertinent. Quand on est une jeune entreprise, comme c'était le cas d'N2I en 2016, quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, la question se pose, un, de financer l'innovation, et deux, d'en partager à la fois la propriété intellectuelle et les revenus, etc. Et donc, c'est là où la coopération avec la SAT a été particulièrement intéressante, puisque le modus operandi qui a été choisi à l'époque nous a permis de partager des coûts de recherche avec la SAT, moyennant un reversement de royalty à l'issue de la production industrielle. Donc, ça nous a permis d'alléger la charge financière de la recherche, de l'accélérer et de bénéficier des lumières d'un expert européen du sujet. Vraiment, un gain sur toute la ligne avec ce partenariat. Donc, à quoi a-t-il abouti? Écoutez, il a abouti à la mise au point d'une voie de synthèse de cette molécule, beaucoup plus efficace et efficiente que celle qui était répertoriée dans la littérature scientifique. On a réduit, on a divisé par 3 la complexité de la fabrication. On a amélioré sa pureté, on est passé d'une pureté d'une molécule 60% de pureté à 95% de pureté. C'est clé, ça peut paraître un peu abscon quand je l'évoque comme ça, mais c'est clé. Quand vous déposez cette odeur dans le champ, si elle est pure à 100%, elle marche à 100%, pour permettre de perturber, de leurrer ou repousser les insectes. Si elle est pure à 70%, vous avez un tiers de trou dans la raquette. Donc, atteindre une pureté supérieure à 90 ou 95%, c'est vraiment clé. Et ça permet aussi d'être économique. On met moins de produits quand il est plus pur. C'est assez logique. Donc, ça permet aussi de rendre le produit plus efficace et plus accessible pour le vétérinaire. Donc, voilà ce à quoi a permis cette coopération. Donc, la molécule de cette phéromone de l'insecte qui s'appelle, avec son nom latin, c'est l'Obesia botrana, le nom vernaculaire, c'est l'œdémite ou le ver de la grappe. Le ver de la grappe, on a tous entendu ce ver blanc là, qui traverse la pellicule du raisin. Et donc, elle a permis d'avoir une synthèse de molécules facile. Ensuite, on l'a formulée dans des solutions pulvérisables grâce à nos savoir-faire en formulation. Et aujourd'hui, c'est un produit qui est vendu dans une quinzaine de pays en Europe. Notamment dans les vignes françaises du Bordelais, avec des châteaux bordelais prestigieux, Château Brion par exemple, mais également les vignes d'Amérique latine ou Argentine. Ce produit est même étendu pour remplacer les pesticides. Donc on voit aujourd'hui, tout avec le recul du temps est nécessaire, tout le bénéfice que N2I a retiré de cette coopération avec ça, qui est un, l'initiative des SAT a été profitable dans notre première partie de l'expérience. Deux, elle a permis in fine d'avoir un produit qui est commercial, qui est commercialisé et qui rétribue convenablement à la fois la SAT, les chercheurs qui ont contribué et N2I. Donc c'est vraiment particulièrement satisfaisant. Et puis enfin, ce qui est important, c'est vraiment que ce mode de partenariat au-delà de l'expertise de partenariat nous a permis de supporter une partie des coûts qui était vraiment clé et nous a permis d'accélérer la vitesse de notre développement, de cette innovation et de notre développement.
Et voilà. En plus, ça a été assez rapide. Parce que je vois, ça commence en janvier 2016 jusqu'en mai 2017.
C'est ça.
Donc en un an et demi. Et après, vous avez dû continuer à développer la R&D.
Alors tout à fait. En fait, à partir de l'acquisition de ce savoir-faire.
C'était pour pas la commercialisable directement après.
Non, là, c'était vraiment là, en gros, pour schématiser une recette de cuisine. Et après, avec cette recette de cuisine, pour l'un des ingrédients de la recette complète, il faut fabriquer cet ingrédient, ensuite fabriquer le plat, et puis après fabriquer le plat à quantité industrielle. Donc, une fois que nous avions obtenu cette innovation, on l'a éprouvé au niveau industriel, au niveau expérimental, labo, puis industriel, et puis ensuite on s'en est pour fabriquer les molécules en grande quantité, puis les formuler, puis en faire un produit fini qu'on a là commencé à exporter. Et donc c'est une exportation d'un produit qui est homologué aujourd'hui en Europe et dans beaucoup de pays du monde, qui a commencé environ 3 ans. 3 à 4 ans pour les temps gagnés. Voilà, aujourd'hui nous en sommes, et puis une petite mention particulière, puisque c'est aussi une technologie et une innovation qui a été récompensée par la société civile et par le prix Carpentier, qui est un des prix prestigieux pour récompenser les innovations. Le président de M2I félicite de l'avancée et de cette coopération avec la recherche publique. Peut-être un petit mot sur la philosophie de M2I au sens large par rapport à la coopération avec les institutions et la recherche publique. La volonté de M2I, elle est vraiment de réinvestir des actifs industriels et des savoirs en sciences complexes et en sciences appliquées, et de capitaliser considérablement sur le terreau industriel, le terreau pédagogique, le terreau scientifique, et de relocaliser au plus possible, dans un but de développer la souveraineté technologique et alimentaire, de relocaliser des activités à forte valeur ajoutée. Et donc la coopération avec les STAT et des entités scientifiques universitaires publiques fait vraiment partie de notre ADN et de la volonté de croissance de l'entreprise telle qu'elle est voulue par les fondateurs.
Ouais, merci beaucoup pour ce retour qui est très positif de ce que j'entends. Il y aura peut-être d'autres plus tard. Christian, peut-être.
Oui. Donc, pour rapidement présenter cette mission, donc c'est une société au départ de distribution de réactifs de laboratoire. Donc nous commercialisons les réactifs. Donc l'idée d'un laboratoire de recherche académique, pharma, etc. Et les laboratoires cliniques, diagnostiques, hôpitaux, voilà. Donc nous sommes, enfin depuis une quinzaine d'années, nous avons commencé un développement géographique avec une société qui n'était pas que en France, avec 14 salariés. Et sur ces dernières années, donc nous nous sommes développés sur une quinzaine de pays en Europe essentiellement. Et nous sommes aujourd'hui un peu plus de 130 collaborateurs, et dont une grande partie sont des scientifiques, d'anciens chercheurs, et une grande partie aussi de commerciaux terrain, eux-mêmes scientifiques, commerce au terrain, parce que voilà, on est une société au départ très commerciale. Et étant une société de distribution, nous dépendons beaucoup de nos contrats de distribution avec nos fabricants, avec donc une instabilité du chiffre d'affaires due à régulièrement des arrêts de contrats de distribution, du fait que voilà, la société dont les produits étaient distribués par Clinician se vend bien, et du coup le fabricant peut lui-même venir développer son réseau de vente en direct. Et donc l'idée, c'est la deuxième étape de développement, c'est d'avoir une partie de nos chiffres d'affaires qui proviennent de nos propres produits que nous fabriquons nous-mêmes. Et différentes stratégies pour développer cette gamme de produits internes. Une partie va venir d'acquis de sociétés qui sont déjà fabricants. Mais aussi, l'autre façon de faire, c'est de développer en interne des produits, soit en faisant du développement interne, soit en allant chercher des licences de brevets dans l'académie, notamment via les PAC. Donc, je vous explique, nous avons la dernière collaboration avec les PAC, c'est déjà notre quatrième collaboration avec les PAC. Nous avions déjà 3 autres contrats de licence avec les PAC dans le passé, donc avec IF9 à l'époque, aujourd'hui Arganeo, Toulouse Tech Transfer et PAC Sud-Est. Et dernièrement, c'est avec Science, c'est parti d'une discussion avec le chercheur qui est Romain Vaudou à Dijon, Et donc voilà, donc avec le produit, le projet qui s'appelle Oncotarget. Donc c'est en fait un produit qui va permettre de prendre des biopsies chez les patients atteints de cancer, de faire du séquençage, et donc le séquençage fait avec ce produit va permettre de identifier un très grand nombre de mutations, de marqueurs en une seule expérience, de rendre un résultat sur les potentielles mutations qui sont à la base du développement du cancer du patient qu'on est en train de regarder, et donc permettre aux oncologues de d'adapter au mieux la thérapie au patient. Voilà, donc ça c'est la technologie. Le brevet avait été déposé en 2019, ensuite maturé par la SAT Science. Et nous avons, nous, signé le contrat en 2022, fin 2022, et travaillé avec le chercheur et la SAT pour aller un peu plus loin dans certaines démonstrations par rapport au produit et adaptation à nos réactifs en interne pour pouvoir arriver à aboutir à un produit que nous souhaitions commercialiser, ce qui a été fait courant 2023, et nous en sommes aujourd'hui au stade de finaliser le produit et le mettre sur le marché là courant deuxième trimestre 2024.
Ça fait combien de temps du coup entre le moment où vous avez contacté la SAT, voilà, et c'est... le moment où vous commercialisez ça?
Nous avons commencé à discuter courant 2022, signé fin 2022, fini le développement, enfin, les dernières études et développements sur le produit courant 2023. Donc
plus d'un an.
Ouais. Maintenant, nous allons travailler sur le marquage TE. Il s'agit de diagnostic. Nous devons marquer CE sous la nouvelle réglementation européenne, qui nécessite quand même pas mal de travail, donc c'est en cours. Mais ce produit peut de toute façon déjà être commercialisé sous forme de recherche, donc pour les laboratoires de recherche ou pour recherche clinique. Et donc peut déjà être et déjà commercialisé pour poser à la discussion par notre projet. Pas besoin de CE pour du marquage CE pour la recherche, mais il nous faut un peu plus de temps pour le marché diagnostique en départ. Voilà, ça prendra probablement à peu près un an.
D'accord. Donc autant de temps pour le marquage CE que pour finalement le développement technologique.
Ça c'est un peu la particularité en fait, on va dire, mais c'est comme ça.
Désolé. Et le coût de marquage CE
Le coût, ça peut représenter, alors ça dépend des données que nous avons déjà au départ, et c'était pas mal là dans ce cas-là, c'est que le chercheur avait déjà déjà beaucoup de données patients sur ce produit, ce qui permet à nous d'avoir d'avancer beaucoup plus vite, parce que nous n'avons pas besoin de générer ces données pour le marquage. Donc nous avons déjà des données, et maintenant il s'agit de faire la partie, on va dire, plus administrative, de constituer le dossier et tout mettre à audit pour obtenir le marquage. Le coût, c'est ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros, l'ordre de 50 000 euros.
Et j'ai une question pour vous deux, alors sans forcément rentrer dans les secrets et dans les chiffres. Et ce que vous avez négocié avec les stats pour le brevet, c'est en fonction du chiffre d'affaires, vous avez ce qu'on peut appeler un upfront, vous devez payer au début une partie pour pouvoir utiliser le brevet, puis après des royalties, et vous avez payé qu'une seule fois au début et puis vous êtes libre de l'utiliser. Et c'est quel type de format, sans forcément donner les chiffres, mais quel type de format vous avez
négocié? En ce qui nous concerne, c'est... Je ne me rappelle plus s'il y avait un frein, mais ce n'était pas conséquent. Mais c'est surtout basé sur le variable, donc pour le chiffre d'un point.
C'est gagnant-gagnant. Quoi. Donc,
c'est que si on fait du chiffre d'affaires, c'est un problème pour
qu'il y ait... C'est le même modèle, c'est-à-dire pas forcément d'upfront, mais de royalties sur le fonds commercial lié à l'invention. C'est important de souligner qu'effectivement, cette négociation-là et cette discussion en amont du partage de la valeur est vraiment clé. Et également, très dépendant évidemment de l'intervention mais également des chercheurs et des entités qui les hébergent. On a eu des échanges dans d'autres contextes académiques, tout délicat sur justement de la négociation, du partage de la propriété, du partage de la valeur en amont. Là, j'insiste beaucoup sur le fait que la coopération avec le CNRS de Bordeaux et Mathieu Puchot à ce titre a été exemplaire, parce que tout a été mis en œuvre dès le début par les deux parties pour pouvoir aboutir ce projet de recherche. Et on n'a pas essayé de récolter des fruits avant d'avoir planté l'arbre. J'ai dit, on se trousse les manches, on plante l'arbre, et puis il y a des fruits, on sera tous les deux contents. C'est ça qui a été vraiment, au-delà de l'expertise technique dont j'ai parlé, c'est ça qui a été clé. On a eu d'autres déconvenues dans d'autres contextes, avec des négociations délicates et des réflexions moins limpides sur le partage de propriété.
Donc, il vaut mieux en parler dès le début.
C'est indispensable, et c'est même, le catalyseur, pour reprendre un mot technique, le catalyseur d'une réussite et d'un partenariat pour être.
Un mot pour compléter ce qu'il dit, dans le cadre de co-développement, comme ça nous arrive de faire, c'est-à-dire que dès la mise en place du co-développement avec l'entreprise, on définit déjà les conditions du transfert ultérieur, ce qui fait que quand on part ensemble, il y a déjà, les choses sont déjà balisées pour la suite
et
pour
les conditions de
certains d'Orient. Un dernier slide.
Un autre aspect de comment commencer à travailler avec nous de manière très simple. Vous avez ici quatre prénoms et noms de personnes qui sont en fait les quatre responsables de filière au niveau national. Ils pourront guider toute entreprise en fonction de son secteur. Donc vous avez Sandrine sur la filière Green Tech, Hervé sur la filière Biotech, Aurélie sur la filière Numtech et Nicolas Lamoureux sur la filière Medtech pour le dispositif médical. Rapprochera certainement de cliniciens, ce n'est peut-être pas déjà fait. Ils seront à votre écoute. Les coordonnées sont projetées là. Et si vous me permettez un dernier mot, dans leur boîte à outils et dans leurs actions actuelles au-delà du lancement récent de la plateforme Tech 365, nous avons prévu de faire une troisième édition, parce que plébiscitée par les entreprises, le 4 juillet 2024. Donc, si cet événement, je vous l'annonce un peu en avant-première, si cet événement est confirmé, nous comptons bien entendu sur Gérald pour diffuser l'info. Et c'est une journée, en fait, et Deep Tech Meeting, c'est une journée gratuite pour les entreprises sur la base d'un catalogue de technologies pour venir à la rencontre des SAT, pour découvrir tout cela, pour nous découvrir, pour découvrir le catalogue de technologies, pour faire en général de belles rencontres. En fin de journée, en général, on a certaines entreprises. Ça rassemble, pour donner quelques chiffres, plus de 400 entreprises sur une journée. C'est en 100% virtuel. Ce sont des rendez-vous de 15 à 20 minutes sur la base d'un catalogue qui est ouvert un mois et demi, deux mois avant. Donc, on est en ce moment sur le sujet. Il y a 150 personnes, des SAT, les business developers, des chefs de projet, des représentants de chaque SAT. Ils sont en face de vous, qui offrent des technologies. 400 entreprises qui ont des besoins de technologies. Et si vous n'avez pas des besoins, mais des questions, vous pouvez aussi venir. Cet événement est gratuit, 100% virtuel. C'est pour servir l'innovation et participer, comme Fabrice a décrit, dans le rôle des SAT, de nourrir le tissu industriel français. Donc voilà une autre manière de faire.
Ouais, super. Merci pour l'annonce et pour... La chance d'avoir été les premiers au courant. On arrive quand même plutôt sur le terme de ce webinaire. On a une question qui a été posée. Je vais te poser, Fabrice. Et puis, s'il y en a d'autres, il nous reste une ou deux minutes pour les poser. Où est-ce que vous vous situez entre les CRIT et les pôles de compétitivité?
Alors, on se situe, en fait, à la différence des pôles de compétitivité et des CRIT, vraiment dans une logique d'investisseur, en fait, dans l'innovation.
CRIT, d'ailleurs, on peut peut-être donner la définition, c'est les centres régionaux innovation de transfert de technologie.
Transfert de technologie, effectivement. La différence qu'on a avec eux, c'est que tous les deux sont, comme nous, à offrir, entre guillemets, j'allais dire, de créer de l'innovation ou aider à l'innovation des entreprises, notamment les pôles de compétitivité qui permettent de rapprocher les entreprises également des laboratoires. La grande différence avec nous, c'est que les pôles de compétitivité aident à donner des réponses à des appels à projets, font de l'intelligence économique. Nous, notre ADN, j'allais dire, vraiment, ce que notre activité principale, c'est l'investissement. C'est l'investissement à des stades précoces d'invention, de faire ce travail, effectivement, de faire grandir des technologies, des briques technologiques un peu balbutiantes au niveau du labo, pour les amener à un stade qui soit vraiment transférable. Notre activité principale, c'était vraiment ça. Hein, c'est cette capacité de, grâce à l'argent d'État, hein, nous a doté de vraiment donner leur chance à des inventions des laboratoires pour qu'elles arrivent à un stade suffisamment attractif pour qu'une entreprise en prenne les droits dessus. C'est vraiment ça notre activité. Pour autant, on travaille avec les deux, aussi bien les pôles que les CRIT, et notamment les pôles de compétitivité, on a plusieurs partenariats avec eux, notamment qui visent à une formule d'échange. On a une technologie qui nous paraît intéressante, on trouve pas tout de suite l'entreprise intéressée. Par contre, les pôles de compétitivité, avec l'ensemble de leurs adhérents, et notamment thématisés, va nous permettre, le cas échéant, de trouver plus facilement une entreprise à qui on pourra proposer une technologie. Et en sens inverse, elle pourra, le pôle de technologie va également, le cas échéant, nous proposer des entreprises qui auront besoin d'avoir un éventail, enfin une réponse à leur question de technologie et de faire des diagnostics des techs, par exemple. Donc, on a des partenariats nourris, on n'est pas en concurrence, on est vraiment en complémentarité. Le CRIT, c'est pareil, on a eu des projets qu'on a pu faire ensemble avec certains CRIT, au bénéfice, effectivement, du transfert de technologie. Donc, on est vraiment des acteurs de l'écosystème qui nous complétons les uns les autres. Notre principal, j'allais dire, notre moteur principal à tous, c'est vraiment, entre guillemets, se mettre au service des entreprises pour les innover.
Et les IRT, ITE,
on travaille un peu avec les, notamment, alors, dans le secteur des Hauts-de-France, l'IRT Rallynium, on travaille avec eux parce qu'ils peuvent être également, par exemple, faire en sorte que sortent des inventions qui peuvent permettre derrière d'avoir des développements complémentaires qu'on peut faire, des maturations à nouveau et des transferts également. Donc, on a.
Complémentaires, au final.
Voilà. Donc, on a également une complémentarité entre nous et pareil, ils ont des entreprises, effectivement, dans les IRT qui sont évidemment très, très présentes. Et donc, on trouve des complémentarités. Donc, voilà. On a besoin, en fait, ce qu'il faut véritablement, c'est que pour l'entreprise, elle se dit qu'on parle entre nous. C'est-à-dire qu'on est capable de se relayer également, de relayer les informations, de se relayer les contacts pour, effectivement, répondre aux besoins.
Ouais, super. Et voilà, on nous remercie pour la réponse.
Merci.
J'espère que ça vous a été très utile. Merci beaucoup.
C'était un podcast de l'Académie saison 5. Nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants et collaborateurs qui ont contribué à sa réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt.